Oui, ça veut dire qu'on a enlevé le sein, on a fait un curage axillaire, ça veut dire qu'on a enlevé les ganglions qui sont dans les selles. Il peut arriver que le bras commence à enfler et ce gros bras-là peut être très très invalidant. On peut également avoir des risques après une radiothérapie sur la paroi thoracique. En fait, c'est une forme d'inflammation qu'on observe, mais ça finit par régresser avec le temps.
Oui, il y a aussi certaines femmes qui perdent leurs cheveux après un traitement du cancer du sein. Est-ce que ces cheveux vont repousser?
Oui, oui, bien sûr. Les cheveux repoussent. D'abord, quand ils repoussent, ils sont soyeux. Ils sont même beaux. Bon, maintenant, quand vous êtes dans un environnement où vous pouvez avoir les casques réfrigérants, vous pouvez minorer ce risque-là. Mais chez nous, en Afrique, ici, comme on n'a pas de casques réfrigérants, on observe que la plupart des dames qui prennent les médicaments qu'on appelle des anthracyclines finissent par perdre leurs cheveux, ce qu'on appelle une alopécie. Mais il faut rassurer les dames. C'est pas parce qu'on a perdu les cheveux que ça ne va pas repousser. Le plus souvent, ça repousse et les cheveux sont même très beaux.
Alphonse Mouaki, depuis la RDC, s'inquiète du coût des traitements du cancer du sein. Est-ce que vous pensez que ces traitements sont accessibles à toutes les femmes, surtout dans les pays en voie de développement?
Ah non, je ne pense pas que toutes les dames puissent accéder au traitement du cancer du sein. En Afrique, vous savez que nous avons des nombreux problèmes de prise en charge. Donc, ce sont les malades qui payent leur traitement. Cependant, il y a d'autres pays comme le Mali où le traitement est quasiment gratuit. J'ai eu un entretien il n'y a pas très longtemps avec un de mes assistants qui est maintenant chef de service là-bas à Bamako, qui m'a dit que la chimiothérapie est gratuite, la radiothérapie est gratuite, mais ça, c'est pour les Maliens.
Et au Congo-Brazzaville, qu'en est-il des traitements?
Au Congo-Brazzaville, le traitement des cancers du sein est payant. Ce sont les malades qui achètent leurs médicaments. Mais il m'arrive d'avoir des malades qui sont dans le service, amenés par les parents. Faute de moyens, ils sont abandonnés dans mon service, on leur donne un lit. Mais si vous êtes dans un lit et que les parents ne sont plus là, vous allez dire que vous ne pouvez plus accéder au bilan, parce que le bilan, ce sont les parents qui payent le bilan. Mais si vous n'avez pas de bilan, comment voulez-vous accéder au traitement? Donc les malades sont dans un lit et le plus souvent, ils sont amenés à décéder. Mais quand ils sont dans un lit, il faut les nourrir. Mais qui les nourrit? Et c'est pas l'hôpital qui les nourrit, c'est encore le chef de service avec ses collaborateurs qui essaient de trouver un peu d'argent pour acheter un peu de riz, du poisson, des choses comme ça là, pour nourrir ces malades-là. Donc, pour répondre à votre question, le traitement du cancer du sein à Brazzaville, il est payant. Ce sont les malades qui achètent leurs médicaments.
Est-ce qu'il arrive parfois que le gouvernement ou les ONG viennent en aide aux personnes qui souffrent du cancer?
L'an dernier, on a eu un petit coup de pouce de la part du gouvernement, donc il y a eu quelques médicaments. Ce ne sont pas des médicaments princesses qu'on aurait dû utiliser. Ce sont des médicaments intéressants, mais qu'on peut utiliser dans un cadre bien précis. Donc, pour me résumer, le traitement est payant. Et il n'est pas seulement payant pour les malades en cancérologie, il est également payant pour les malades qui sont en hématologie. Vous savez que les cancers, vous avez dit les cancers hématologiques, les lymphomes sont gérés par nos amis hématologues.
Et ça complique la lutte contre le cancer du sein, notamment si la malade n'a pas les moyens de se payer un traitement.
Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il faut que l'Union africaine prenne une résolution où on doit imposer à tous nos pays la construction des centres anticancéreux. Il n'est pas normal au 21e siècle, dans des pays modernes comme les nôtres, que les malades atteints de cancer soient abandonnés à eux-mêmes. Et c'est à la limite même inhumain, ça. Et il faut qu'on s'organise à prendre en charge, parce que le cancer, madame, c'est pas le paludisme. Hein. Quand on vous annonce bien sûr du cancer, vous avez l'impression que tout s'écroule. C'est la vie de toute une famille qui se bouscule.
À qui devrait revenir la responsabilité d'appuyer financièrement ces malades abandonnés à elles-mêmes?
Il revient à l'État parce qu'on n'a pas beaucoup de cas de cancer. Donc, il y a moyen de prendre en charge ces cancers-là. Vous savez, à Brazzaville, moi, je suis en très grande souffrance. Nous formons des oncologues. Quand ils retournent chez eux, ils font la promotion de la problématique du cancer et on leur construit des centres anticancéreux. Donc, l'idéal serait qu'à Brazzaville, qu'on nous construise des centres anticancéreux où nous pouvons traiter de façon efficace et en régie nos malades.
Après le traitement, comment est-ce que la femme pourra faire pour vivre avec son cancer ou pour éviter qu'elle ressurgisse?
Aujourd'hui, on connaît mieux les cancers. Le cancer n'est plus synonyme de mort comme à l'époque où dès que vous étiez porteur d'un cancer, c'était une mort inéluctable. Non, aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus les cancers. Donc, il y a eu l'éducation thérapeutique qui est faite, il y a la surveillance. Quand la dame est bien surveillée, il n'y a normalement aucun souci, sauf si la maladie revient. Mais si la maladie revient, il y a encore des traitements et il y en aura toujours.
Quelles sont les chances de guérison du cancer du sein?
Et les chances sont énormes. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, à travers le monde, on arrive à guérir de 7 cancers sur 10 avec l'intelligence artificielle qui est en train de faire ses grands pas avec l'amélioration des techniques de diagnostic précoce, avec les traitements intelligents. Parce qu'aujourd'hui, un cancer du sein ne se traite plus de la même façon. Si nous sommes venus avoir un cancer du sein selon les profils moléculaires, selon les profils biologiques, on ne sera pas traité de la même façon. Donc, non seulement on arrivera à guérir beaucoup de cancers du sein, l'idéal c'est qu'on arrive à guérir 9 cancers sur 10, et le 10e cancer devra basculer dans ce qu'on appelle les maladies chroniques. Donc, dans les 20-30 années à venir, je crois que les gens vont mourir très très peu du cancer.
Professeur, pourquoi certaines femmes qui ont un cancer du sein ont une ablation de ce sein, mais d'autres pas?
Tout dépend du stade de la maladie. L'ablation, c'est comme la chirurgie. Donc, il y a des indications précises pour faire l'ablation du sein. Si vous avez un nodule beaucoup plus gros dans votre sein et qui ne répond pas à une chirurgie minimaliste comme une tumorectomie, il faut aller enlever le sein. Vous enlevez le sein et vous allez également enlever les ganglions. Bon, aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la technique du ganglion sentinelle, on ne fait plus de curage schématiquement. Mais nous, comme on n'a pas cette technique à Brazzaville, quand on enlève le sein, on va enlever également les ganglions qui sont sous les selles.
Oumarou Zada Massaoudou veut savoir si le cancer du sein est traitable par la médecine traditionnelle. Je sais que vous faites la médecine moderne, mais elle a posé cette question.
Je ne vais pas ostraciser les tradis thérapeutes, bien au contraire, on en a besoin. Vous savez, lorsqu'on aborde le cancer du sein selon l'angle culturel ou l'angle anthropologique, on n'a pas besoin de ces gens-là, parce que chez nous en Afrique, toute maladie a une signification. On pense que c'est un sorcier, et le sorcier le plus souvent c'est l'oncle que je suis, c'est le papa que je suis, et on va voir ces tradis thérapeutes-là. Moi, je n'ai pas vu un tradis thérapeute guérir une âme d'un cancer du sein, et je serais étonné que ça puisse arriver. Mais ça peut être des traitements complémentaires, pourquoi pas? Il ne faut pas fermer la porte.
Professeur, à partir de quand une femme qui a souffert d'un cancer de sein peut s'estimer être guérie?
Oh, mais disons 5 ans. Encore qu'après 5 ans, la tumeur peut revenir. Mais si après 5 ans, vous n'avez plus de signe, vous êtes en rémission complète, vous pouvez estimer que vous êtes guéri.
En parlant de récidive, Guillaume Omonga, depuis la RDC, il veut savoir qu'est-ce qui peut faire que même après le traitement, la personne finira par avoir la maladie et peut-être même en mourir.
Le cancer, c'est une maladie générale. Quand on découvre le cancer dans un organe, il faut se dire qu'il y a des cellules tumorales qui se promènent à travers les vaisseaux. Donc, ça peut déjà aller se mettre ailleurs. Maintenant, il peut arriver qu'une fois que vous avez traité le cancer du sein, que vos cellules rentrent en phase qui sont comme je dis, donc ils ne bougent plus. Mais il peut arriver par un mécanisme que nous ne savons pas, que ces cellules-là se réveillent comme ça brutalement et se remettent à coloniser votre organe. Donc, oui, on peut avoir été traité pour un cancer du sein. On a été en rémission complète pendant longtemps, même après 10 ans. Et oui, le cancer revient, malheureusement.
Et c'est au cas par cas, mais ce n'est pas chez toutes les femmes.
Non, pas toutes les femmes. Heureusement, nous avons beaucoup de dames que nous arrivons à guérir du cancer du sein. Mais il n'y a pas que le cancer du sein, il y a beaucoup de cancers. Le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'ovaire, on arrive à en guérir pas mal. Oui.
Que devrait faire la femme pour bien vivre l'après-traitement de son cancer du sein?
La femme doit rester attentive, tout simplement. Elle doit être vigilante. Dès qu'il y a une anomalie qui apparaît dans le sein, si on avait fait une petite chirurgie, elle doit repartir voir son cancérologue. Oui, bien sûr, il faut repartir immédiatement, il ne faut pas attendre.
Au niveau de Brazzaville, de quel soutien bénéficient les femmes atteintes du cancer du sein?
Au niveau de Brazzaville, il commence à avoir des associations de femmes porteuses de cancer du sein, ou bien des femmes qui ont été guéries du cancer du sein. Donc, il y a un soutien. Je crois que c'est fondamental. Il y a cette forme de solidarité qui s'est installée comme ça. Donc, on les tient psychologiquement. Il se passe des choses. Je crois qu'il y a comme un frémissement. Et c'est bien que des dames qui ont été guéries d'un cancer du sein se montrent à d'autres qui sont porteuses d'un cancer du sein, qui sont en traitement, pour motiver celles qui sont malades à accepter le traitement et aller vers le traitement.
Est-ce qu'éviter de prendre la pilule peut moins exposer la femme au cancer du sein?
À l'époque, on fantasmait même sur la pilule, parce que quand vous prenez la pilule, vous prenez, ce sont les hormones que vous prenez. On pensait que la pilule pouvait induire un cancer du sein. Cette idée a été battue en brèche. Non, je crois qu'il faut rester tranquille, il faut s'observer.
Il y en a qui veulent savoir s'il y a la ménopause, il y a des choses auxquelles on doit être plus attentif pour éviter d'attraper un cancer du sein. Est-ce que le risque est plus élevé pendant la ménopause ou pas?
Le cancer, c'est d'abord une maladie du vieillissement. Plus on vieillit, plus la probabilité de faire un cancer est élevée. Donc on a tendance à faire un cancer quand on est ménopausé. C'est pour ça qu'on a décidé à travers le monde, enfin pas encore dans nos pays, que le dépistage se fasse à partir de 50 ans. C'est-à-dire que tous les 2 ans, vous partez faire une mammographie pour la surveillance.
Léo-Émile Kankondé, depuis le Kasaï central en RDC, veut savoir pourquoi jusqu'à ce niveau, les chercheurs ne parviennent pas à maîtriser cette pathologie qu'on appelle cancer du sein.
Ah non, je ne peux pas laisser dire ça. Les cancers sont des affections extrêmement complexe. C'est-à-dire que la manière dont on est un cancer aujourd'hui, c'est quelque chose de très très complexe. Parce que vous avez plusieurs phénomènes qui interviennent. Mais on a fait des avancées considérables. Les traitements que nous appliquions dans les années 80 ne sont pas les traitements du 21e siècle. On a beaucoup progressé dans les traitements. D'abord dans le diagnostic et dans le traitement. Aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus des femmes atteintes de cancer du sein. Donc on ne peut pas dire que le travail ne se fait pas. Non, les chercheurs travaillent. Je vous ai dit que l'idéal serait que le cancer du sein, même s'il a un stade très avancé, devenue une maladie chronique et qu'on n'en meurt plus. Plus on va avancer dans le temps, plus la recherche se fait, plus on aura des traitements innovants.
Quelles innovations pourrait-il y avoir?
chacun aura son traitement. Si vous appelez Madame A, votre traitement demain sera pour Madame A. Et pourtant, avec Madame B, vous avez le même cancer du sein. Mais comme je vous l'ai dit pendant l'émission, les profils biologiques, les profils moléculaires sont totalement différents. Donc les traitements seront donnés en fonction de ces profils-là. Donc il faut rassurer le monsieur que le travail se fait. Nous qui sommes en train de prendre un peu d'âge aujourd'hui parce qu'on tend vers notre finitude, dans 20 ans, nous aurons nos jeunes cancérologues certainement plus outillés, plus armés, avec des traitements innovants.
Donc professeur, il y a Alfred Nobel qui a appris que si les femmes donnent naissance aux enfants et qu'elles allaitent leurs enfants, peut-être que ça pourrait diminuer le cancer du sein. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai. L'allaitement est un facteur protecteur. Parce que quand vous allaitez, ça veut dire que vous avez amené votre sein à maturation. C'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'on conseille à nos femmes de faire des enfants. Vous savez que l'Afrique est encore surpeuplée. On a besoin d'enfants.
Donc l'allaitement et la maternité peuvent protéger du cancer du sein.
Ah oui, 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 bien sûr. Il faut encourager nos femmes, nos soeurs, nos enfants à faire des enfants. Il ne faut pas se laisser aller à un discours, à la limite, un peu condescendant qu'on a entendu, où on dit que les Africains font beaucoup d'enfants. On a entendu un discours comme ça, je ne peux pas citer le nom de ce président-là. À la limite, c'était même une insulte pour l'Afrique. Nous, on doit faire des enfants. L'Afrique a besoin d'avoir des enfants. Et il en faut, d'ailleurs.
Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner à toutes les femmes, quel que soit leur âge, juste pour se prémunir du cancer du sein, même s'il n'y a pas vraiment une prévention à proprement parler?
Alors, la première chose, c'est qu'elles doivent être regardantes. Elles doivent apprendre à surtout palper les seins. Deuxième chose, elles doivent voir régulièrement un gynécologue. Et puis, à partir de 40 ans, pour ce qui concerne l'Afrique, il faut que les femmes viennent au dépistage, qu'on fasse une mammographie, qu'on regarde s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est en Afrique. En Europe, c'est 50 ans. En Afrique, parce que nous, la moyenne d'âge des cancers du sein est plus faible que celle qu'on observe en Europe. Mais c'est surtout se regarder les seins, ne pas attendre que la boule grossisse pour dire que comme je n'ai pas mal, je ne vais pas aller voir mon gynécologue ou bien mon médecin généraliste. Dès que vous observez une anomalie, même un mamelon qui s'incurve, une petite plaie qui arrive autour du mamelon, une petite plaie au niveau de la peau du sein, il faut aller voir le médecin. N'attendez pas. Refusez qu'on fasse des scarifications sur le sein. Si vous voyez un gynécologue qui dit je vais vous enlever la boule comme ça, refusez ça. Vous dites non, non, non. Est-ce que vous avez déjà fait un petit prélèvement pour savoir exactement ce qui se passe? C'est le message que vous devez faire passer à nos auditeurs.
Professeur, pour terminer, nous savons que le cancer du sein, ce n'est pas un problème qui concerne seulement le malade, mais aussi les pouvoirs publics, la famille, les médecins et tout. Mais quelle peut être la contribution de toute la communauté pour lutter efficacement contre le cancer du sein?
La réponse à cette question, c'est la solidarité. Il faut qu'on soit solidaires les uns des autres. Parce que quand quelqu'un souffre d'un cancer du sein, c'est tout son environnement familial qui est bousculé. Si vous avez votre épouse qui a un cancer du sein, même votre travail peut prendre un coup, les enfants à la maison sont désarticulés parce que maman n'est plus là, c'est vraiment un problème. Donc on a besoin du soutien de tout le monde. Et comme c'est une maladie dont la prise en charge est chère, elle est onéreuse, il faut que les parents, en attendant que nos gouvernements ou nos États prennent en charge de façon optimale cette pathologie, et que si les gens peuvent apporter un peu d'argent pour aider les autres, c'est une bonne chose. N'attendons pas que les gens décèdent pour aller acheter des cercueils tout coûte cher et trouver les meilleurs caveaux pour aller les ensevelir. Non, c'est prenant que les gens sont malades, que vous devez être là, vous devez les encourager, vous devez les motiver, vous devez même les pousser à aller faire du sport. Vous savez que le sport contribue même à restaurer l'immunité, donc à lutter contre ce cancer-là. Et vous pouvez même apporter de la musique, parce que la musique aussi peut contribuer à améliorer l'évolution de la maladie. Ça va réduire un peu le stress. Bon, en définitive, le mot que je retiens, il y a deux mots, empathie et puis solidarité.
Okay. Merci beaucoup encore de votre disponibilité.
Oh, madame, c'est moi qui vous remercie.
Suivre l'interview que nous a accordé le professeur Jean-Bernard Kwambon, chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marie-Ngouabi en République du Congo. Voici à présent le moment de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou. Cette semaine dans Carnet de santé, coup de projecteur sur le coronavirus alors que les autorités sanitaires à travers le monde restent en alerte. Les explications d'un expert afin de mieux comprendre cette pneumonie virale qui suscite beaucoup de questions. Et le Sénégal applique les leçons apprises durant l'épidémie d'Ebola et se prépare. Enfin, comment l'Afrique du Sud entend faire face à ce nouveau virus hautement contagieux? C'est dans cette édition de Carnet de santé.
Le coronavirus 2019, NCOV, découvert pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan, continue de se propager. Le virus a tué des centaines de personnes dans le pays et infecté des milliers d'autres à travers le monde. Les coronavirus forment une famille comptant un grand nombre de virus qui infectent principalement les animaux. Néanmoins, ces virus peuvent occasionnellement infecter l'homme et provoquer des maladies très diverses, allant du rhume à la pneumonie, entraînant parfois des complications respiratoires. Partons en Chine, où les autorités ont interdit temporairement la vente d'animaux sauvages en réponse à ce nouveau virus qui, selon elle, s'est propagé à partir d'un marché de gibier à Wuhan. Voici le reportage de Steve Baragona.
Les animaux sauvages ne passeront plus à la casserole pendant un bon bout de temps, car les autorités chinoises ont décidé de réprimer la vente du gibier. Des marchés de viande de brousse ferment temporairement. Le même phénomène s'est produit en 2002 après la découverte du SARS, un virus transmis par des civettes dans le sud de la Chine. Cette épidémie avait tué au moins 800 personnes.
Il est très déconcertant de voir que nous ne retenons pas la leçon sur l'origine de ces risques.
William Karesh est un vétérinaire. Selon lui, les marchés d'animaux vivants rassemblent beaucoup d'espèces stressées dans un petit espace, un environnement parfait pour la propagation des maladies.
La plupart des animaux ne sont pas tous infectés, bien sûr, et ne transmettent pas de virus. Cela concerne une ou deux espèces, mais comme ils arrivent sur un marché où il y a du monde, où il y a d'autres animaux pareils, ils peuvent commencer à le répandre. C'est comme les enfants à la maternelle. L'un d'eux tombe malade et la suite, vous la connaissez. Tous les autres ramènent ça à la maison.
Le vétérinaire affirme que les marchés du gibier peuvent en particulier engendrer de nouvelles maladies, car ils rassemblent les animaux et leurs germes qui ne doivent pas normalement se mélanger. C'est une occasion propice pour un germe de trouver une nouvelle espèce à infecter. C'est un cycle, des milliers d'animaux traversent chaque jour les marchés avec des millions d'acheteurs, avec des chiffres comme ça.
Les chances qu'un virus réussisse à entrer en contact avec les gens sont assez élevées.
Pour le vétérinaire, les supermarchés remplacent de plus en plus les marchés réels dans le monde. Leurs offres sont parfois moins exotiques, mais au moins c'est plus sûr pour tout le monde.
Pour en savoir davantage sur le coronavirus, nous joignons par Skype à Dillon en Floride, Sean Beckman, professeur adjoint de biologie à l'université Stetson. Professeur Beckman, bienvenue dans notre émission. Professeur, ce virus zoonotique est transmis de l'animal à l'homme, tout comme le virus Ebola. Comment les gens se protègent-ils des virus zoonotiques de façon générale, en particulier sur la consommation ou le contact avec les animaux sauvages?
La chose importante à retenir avec ce virus, comparé au virus Ebola, par exemple, est que Ebola est transmis par le sang. Il y a donc plusieurs moyens de transmission, alors qu'avec le coronavirus, on est en face d'un virus qui est transmis à travers l'air et s'est transmis à travers le mucus d'un individu à un autre. Alors le risque d'attraper un virus zoonotique d'un animal sauvage est relativement bas, à moins qu'on sache que l'animal est infecté. Comme règle générale, l'hygiène normale, les précautions normales dans ces cas-là sont suffisantes. Se laver les mains si vous travaillez avec les animaux sauvages, mettre un masque pour se protéger de n'importe quel virus zoonotique est une bonne idée, mais il n'y a pas de risque réel de transmission de ce virus d'humain à humain, plus qu'une grippe et d'un animal à un humain.
Wearing a face mask to prevent the transmission of any zoonotic disease is a good idea.
Professeur Beckman, merci d'avoir répondu à nos questions. Le professeur Sean Beckman est professeur adjoint de biologie à l'université Stetson en Floride. Face à la propagation du coronavirus, nous vous avons posé la question suivante. Pensez-vous que les pays africains prennent suffisamment de précautions? Omar Diallo répond: je pense, chez nous en Guinée, les autorités sanitaires ont pris des mesures qu'il faut pour y faire face, car l'épidémie d'Ebola nous a donné des leçons. Mamadou Lamarane Ba écrit sur Facebook: les gouvernements africains prennent à la légère la vie de leur population, car les précautions sont insuffisantes pour prévenir le coronavirus sur le continent. Et enfin, Victoire Kimmal dit: je pense que plusieurs pays ont mis en place des mesures de prévention, le contrôle sanitaire, le renforcement sanitaire, qui permet de détecter des cas suspects. Et voilà. Les autorités sanitaires africaines se démènent pour se préparer à une éventuelle épidémie de coronavirus. En Afrique de l'Ouest, l'aéroport international Blaise Diagne du Sénégal prend des mesures pour empêcher l'accès du virus dans le pays. Reportage d'Estelle Nanjo.
Le coordinateur du contrôle sanitaire de l'aéroport, Kainash Kama, est chargé de prévenir la propagation de la maladie au Sénégal. Depuis l'éclosion du nouveau coronavirus en Chine, le Sénégal a déployé des équipes médicales aéroportuaires pour aider à la prévention.
Il s'agit d'une caméra thermique que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis sur place pour pouvoir contrôler tous les passagers qui viennent à l'aéroport. Donc la caméra thermique est une détecteur de température.
L'équipe médicale a été déployée lors de l'épidémie Ebola en 2014 en Guinée, au Libéria et au Sierra Leone voisin. Les mesures du Sénégal ont été efficaces car un seul cas d'Ebola est entré dans le pays et le virus mortel ne s'est pas propagé. Pendant ce temps, les autorités demandent à toute personne arrivant avec une toux ou une forte fièvre de se rendre au centre santé le plus proche.
Maintenant sur l'Afrique du Sud, où les autorités sanitaires disent que le pays a réagi rapidement à travers des mesures préventives afin de s'assurer que le coronavirus ne devienne pas une menace. Le professeur Cheryl Cohen est co-directrice du Centre pour les maladies respiratoires et la méningite à l'Institut national des maladies transmissibles en Afrique du Sud.
Pour moi, l'information la plus importante qui nous manque est à quel point cette épidémie est-elle sévère. Nous disposons de chiffres sur le nombre de cas enregistrés en Chine, le nombre de décès, mais nous savons que ce genre d'information a tendance à gonfler le taux de mortalité, parce que généralement, ce sont les cas les plus sévères qui sont testés en premier. Donc, nous ne savons pas vraiment combien de personnes sont infectées en Chine, ni le vrai taux de mortalité, et aussi le possible impact sur la population mondiale. Ce sont des informations qui sont critiques, mais qui sont très difficiles à obtenir pour les scientifiques.
Le coronavirus est une urgence de santé publique de portée internationale, selon l'OMS. Carol Pearson de la VOA a demandé à quelques experts quels sont les meilleurs moyens d'arrêter les épidémies.
Le Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC des États-Unis a aidé plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest à mettre fin à l'épidémie d'Ebola il y a quelques années. À cette époque, le CDC était dirigé par le docteur Tom Frieden, actuel directeur de l'ONG Resolve to Save Lives. Il nous a expliqué comment mettre un terme à l'épidémie de coronavirus.
Pour chaque microbe différent, nous avons une approche différente. Pour certains, nous avons des vaccins. Pour d'autres, il existe des mesures de confinement, comme pour le SRAS ou Ebola, que nous pouvons réellement arrêter. Et pour d'autres, comme la grippe, nous essayons d'atténuer les effets et réduire les dégâts.
Les coronavirus se transmettent par la voie respiratoire, ce qui signifie que ces virus peuvent se propager plus facilement par la toux ou les éternuements. Cela rend la recherche des contacts beaucoup plus difficile. L'isolement est également essentiel. Mais avec un virus qui a infecté au moins 20 000 personnes, cela peut être une tâche ardue.
C'est difficile. C'est vraiment une question de santé publique très difficile.
Le gouvernement chinois a demandé aux populations de rester chez elles si elles n'ont pas besoin de soins hospitaliers. Le gouvernement a également mis en quarantaine des villes entières, ce qui signifie que les personnes qui s'y trouvent ne sont pas autorisées à partir.
C'est un effort remarquable du gouvernement chinois et en santé publique, nous appelons cela une distanciation sociale. En d'autres termes, réduire les contacts entre les gens.
En outre, les spécialistes font d'autres recommandations d'usage.
Lavez-vous les mains et couvrez votre toux.
Tout le monde doit se laver les mains, les malades doivent être isolés.
Les chercheurs travaillent sur un vaccin, mais pour ce virus, c'est l'observation des règles d'hygiène et des bonnes pratiques en matière de sécurité sanitaire qui mettront probablement fin à l'épidémie, qu'elle atteigne ou non un stade pandémique, comme ce fut le cas pour l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et d'autres pandémies.
Pour plus d'informations et les dernières nouvelles sur l'épidémie du coronavirus, visitez notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me joindre sur Twitter, @linormoudou.
C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous étions en compagnie du professeur Jean-Bernard Kwambon pour discuter des chances de guérison, de l'après-traitement et de quelques moyens pouvant permettre de minimiser les facteurs de risque d'un cancer du sein chez la femme dans cette deuxième partie consacrée au cancer du sein féminin. Le professeur Jean-Bernard Kwambon est chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marie Ngouabi en République du Congo. Ensuite, dans la seconde partie de notre programme, vous avez suivi Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. À la réalisation, Vasco Valaric. À la présentation, Nanit Talami. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.